25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tata, l'équipage du Romano Fafard se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde d'être là.
Pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès le 1er mai sur Crave.
Bon mardi, nous sommes le 11 décembre. Bienvenue à notre édition hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, dont l'enregistrement cette semaine provient de Victoria, en Colombie-Britannique, où je suis présentement pour la couverture du camp de sélection d'équipe Canada Junior. C'est déjà notre 9e émission cette année. Alors, un peu comme c'est le cas chaque semaine, on va faire le tour de l'actualité au niveau de la Ligue américaine, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais bien entendu, là, ce qui retient l'attention, c'est ce camp de sélection qui, somme toute, se met en marche véritablement aujourd'hui. Hors du Québec, hors de l'Est, la première séance d'entraînement de l'équipe canadienne des joueurs qui se retrouvent au camp de sélection aura lieu à 13h. Il y en aura une autre en fin de soirée à 21h, heure de l'Est. Et il y a des matchs à partir de demain. La façon dont le camp fonctionne, c'est deux séances d'entraînement aujourd'hui. Demain et jeudi, il y a des matchs préparatoires contre une équipe d'étoiles universitaires de joueurs qui viennent d'un peu partout au Canada. Pour la plupart des anciens joueurs là, de la Ligue canadienne de hockey, j'en ai croisé quelques-uns d'ailleurs hier à l'aéroport, des anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont là, Nicolas Brouillard, Christopher Clapperton notamment. Donc c'est une équipe qu'on veut compétitive pour affronter équipe Canada junior. Alors, il y a un match demain soir, 21h, heure de l'Est. Il y a un match jeudi également, 21h, heure de l'Est. Après ce deuxième match-là, il y aura une première séance de coupure, si on veut, de joueurs qui seront retranchés. Parce qu'au total, on en a 12 à retrancher ici au camp. Là, il y a 5 défenseurs qui devront partir, 6 attaquants et un gardien de but. Donc, je présume qu'il y en aura 4 ou 5 de ces joueurs qui seront retranchés au terme du deuxième match jeudi. Et le dernier match a lieu en après-midi ici à Victoria à 14h vendredi, donc 17h heure de l'Est. Et au terme de ce match-là, on va annoncer la composition finale d'équipe Canada junior qui va représenter le pays cette année au championnat mondial de hockey junior qui a lieu ici en Colombie-Britannique à Vancouver pour la formation canadienne, mais aussi à Victoria. Si on revient un peu sur cette liste de joueurs qui participent au camp, on a passé vous offrir quelques statistiques. D'abord, il y a 34 joueurs au camp, si on le dit. 16 de ces 34 joueurs sont des choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey. Il y a 3 joueurs présentement qui n'appartiennent à aucune équipe de la Ligue nationale. Alexis Lafrenière, il n'est admissible qu'en 2020. Raphaël Lavoie, il n'est admissible qu'en juin prochain, en 2019. Et un joueur qui a été deux fois, qu'on aurait pu réclamer deux fois et qui finalement n'a pas été repêché, c'est Brett Leeson des Raiders de Prince Albert, qui lui, présentement, n'est ni plus ni moins que le meilleur marqueur au hockey junior canadien. Il a 64 points en 31 matchs. Mais pour des raisons, des fois, qui sont difficiles à expliquer, il n'a pas été réclamé, mais vous pouvez être assuré qu'il le sera fort probablement en juin prochain. Alors, ce sont les 3 joueurs qui n'appartiennent pas à aucune équipe de la Ligue nationale. Les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, les Voltigeurs de Drummondville et les Knights de London ont chacun 3 joueurs au camp ici. Donc, ce sont les équipes qui sont les mieux représentées. Il y a 14 joueurs de la Ligue de l'Ontario, 8 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 7 de la Ligue de l'Ouest, 4 des universités américaines et un joueur également qui provient de la Ligue américaine présentement, soit Gabriel Velarde, qui appartient aux Kings de Los Angeles, un choix de première ronde, qui n'a joué qu'à 4 matchs cette saison en raison d'une blessure, 4 matchs dans la Ligue américaine avec le Reign d'Ontario. Donc, il est au camp présentement. On espère qu'il sera en mesure là, de pouvoir offrir sa pleine mesure, si on veut, d'être à 100%. Lui et Jarrett Anderson Dolan sont les joueurs qui, présentement, là, soignent des petits bobos. Anderson Dolan n'a joué que 2 matchs avec Spokane dans la Ligue de l'Ouest. Il en avait joué 5 avec les Kings de Los Angeles en début de saison aussi. On espère, lui aussi, dans son cas, qu'il sera en mesure là, d'offrir ses pleines capacités pour se tailler une place au camp. On rappelle qu'il y a 8 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les défenseurs Noah Dobson, Nicolas Baudin, Pierre Pierre-Olivier Joseph et Jared McIsaac, et les attaquants Maxime Comtois, Raphaël Lavoie, Joe Valeno et bien sûr Alexis Lafrenière, qui est le plus jeune joueur au camp à 17 ans. Il vient d'avoir 17 ans là, le 11 octobre dernier, donc lui n'est admissible à la séance de sélection qu'en 2020, mais il se présente quand même au camp de sélection en pleine confiance. Il a 54 points en 31 matchs avec l'Océanique de Rimouski cette saison. Ça lui confère le 5e rang dans la colonne des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Hier, les joueurs se sont présentés à Victoria. Ils sont tous arrivés à l'aéroport en milieu d'après-midi. Alors, je me suis déplacé du côté de l'aéroport de Victoria pour aller accueillir les joueurs. D'ailleurs, il y a un reportage qui a été présenté lors des bulletins Sport 30 au cours des dernières heures que vous pouvez également voir sur le rds.ca. Et je me suis entretenu avec Alexis Lafrenière qui, comme je le disais, est le joueur le plus jeune à ce camp de sélection. On vous présente donc ce court entretien que nous avons eu à chaud lorsqu'il venait de mettre les pieds à Victoria en Colombie-Britannique.
C'était un objectif en début de saison d'être invité à ce camp-là. Là, tu te retrouves ici. Comment tu vois les prochains jours pour toi? Tu te présentes ici, tu es quand même le plus jeune du groupe.
Oui, c'est sûr. Je pense que tu sais, je suis plus jeune, mais je pense pas que je vais m'en faire avec ça. Je pense que je vais juste jouer ma game et essayer de travailler le plus fort possible, avoir du plaisir. Puis je pense que tu sais, si je joue ma game, je pense que ça devrait bien aller.
Tu es confiant même si tu es le plus jeune?
Oui, je pense que tu sais, faut pas que j'arrive ici en pensant que en étant intimidé ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut juste que, comme j'ai dit, que je joue ma game puis que c'est juste que je travaille le plus fort possible.
Cet été, on t'avait laissé jouer avec les moins de 18 ans plutôt que d'être avec le camp d'été. Tu penses-tu que ça a été une bonne décision quand tu regardes ça avec le recul?
Oui, je pense que oui. J'ai vraiment eu un très bon tournoi au moins de 18 ans. Puis d'avoir gagné une médaille d'or, c'est vraiment spécial. Fait que je pense que ça a été vraiment une bonne décision. Puis je regrette vraiment pas d'avoir été au moins de 18 ans.
Tu te présentes en confiance. Les derniers matchs, ça a quand même bien été au Québec là, avec le CNA?
Oui, c'est ça. Je pense que ça a bien fini avant que je parte. Puis, j'ai une bonne confiance. Fait que ça va être juste d'essayer d'amener ça ici puis juste d'essayer de travailler le plus fort possible pour essayer de me tailler un poste.
Tu le sais qu'on dit toujours que c'est pour les 19 ans. Puis tu vas avoir encore la chance de venir l'an prochain. Mais toi, tu penses pas l'an prochain. Là, tu penses à cette année?
Oui, c'est ça. Mon but, c'est pas l'an prochain. C'est de faire l'équipe cette année. Puis je pense que je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté en travaillant le plus fort possible. Puis il y arrivera ce qui arrivera. Là.
Quand tu es parti de Rimouski, c'était quoi le message de Serge? Puis quand tu t'en viens ici, il ne voulait pas te revoir avant le mois de janvier?
Oui, c'est ça. Il m'a dit juste d'être moi-même puis de travailler le plus fort possible. Puis il m'a souhaité bonne chance. Là.
Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, 17 ans du Québec. On a parlé de Jonathan Drouin. Puis avant ça, ça remonte à Vincent Lecavalier. Ça serait un bel honneur. Ça serait un bel accomplissement.
Oui, ça serait spécial. Là, quand tu regardes les noms qui l'ont fait à 17 ans, c'est vraiment des gros noms. Fait que, j'essaie de pas trop y penser, mais ce serait vraiment quelque chose de spécial. Là.
Merci beaucoup. Bonne chance.
Merci beaucoup.
Alors voilà donc pour les propos d'Alexis Lafrenière qu'on a rencontré hier. Et hier également à Hockey 360, puisqu'il en était question dans cette entrevue, on vous a présenté la liste des Canadiens qui ont réussi à faire à se tailler une place dans l'équipe canadienne junior à l'âge de 17 ans. On l'a dit, depuis les années 2000, un seul Québécois a réussi à faire ça, c'est Jonathan Drouin en 2013. Il y a 11 autres joueurs depuis 2005 qui ont réussi à se tailler une place avec l'équipe Canada Junior à 17 ans. Je vous les nomme. Sidney Crosby en 2005, Jonathan Toews en 2006, Sam Gagné en 2007, Steven Stamkos et John Tavares en 2008, Evander Kane et Ryan Ellis en 2009, Jonathan Drouin et Nathan MacKinnon en 2013, Aaron Ekblad en 2014, Connor McDavid en 2015 et Lawson Krause également en 2015. Donc, ces 12 joueurs-là ont réussi ce que Alexis Lafrenière va tenter de faire cette semaine, se tailler une place à 17 ans avec l'équipe nationale junior. Et 6 de ces 12 bonhommes-là, que je viens de vous nommer le nom, ont été des premiers choix au total dans la Ligue nationale. Et évidemment, on prête la possibilité là, à Alexis Lafrenière de suivre ces traces-là et d'être le premier choix de l'encamp de la Ligue nationale en 2020. On verra bien, mais tout ça pour vous dire que c'est pas évident de se tailler une place à 17 ans avec l'équipe nationale junior. Et que quand on réussit à le faire, c'est parce qu'on est doté évidemment d'un talent spécial. Et Alexis Lafrenière a sûrement ce qu'il faut. Cet été, il a été le meilleur marqueur du Canada lors de la Coupe Linka Gretzky réservée aux joueurs de moins de 18 ans, même s'il était encore là, un des plus jeunes du groupe. Il faut savoir que dans cette équipe-là, il y avait quand même plusieurs joueurs là, qui... avait gagné au niveau précédent des moins de 18 ans. Lui, il arrivait là un petit peu comme du groupe des moins de 17 ans, si on veut, et a réussi non seulement à faire sa place, mais à être un des meilleurs joueurs du Canada. Il a terminé au deuxième rang des pointeurs du tournoi, 11 points en 6 matchs. Il était le capitaine de la formation. Alors, cette expérience-là va se transposer pour lui, on l'espère, au cours des prochains jours. On me demande beaucoup là sur les médias sociaux ce que je pense de la possibilité, combien de joueurs de la LHJMQ devraient se retrouver dans l'équipe canadienne. C'est difficile à prévoir. Moi, je pense que pour Noah Dobson, c'est un acquis. Il sera là, même s'il n'a que 18 ans. Il a été le meilleur défenseur là, du Titan d'Acadie Bathurst au tournoi de la Coupe Memorial. Écoutez, depuis le début de la saison, c'est pas facile à Bathurst. Là, il y a une fiche de statistiques de moins 30 en 28 matchs. Mais le Titan a tellement de difficultés cette année qu'on comprend qu'il ne faut pas se fier à ça. Dobson sera là, selon moi. Maxime Comtois, évidemment, sera là de son statut de vétéran de l'an dernier. Je pense qu'Alexis Lafrenière a plus de chances de se tailler une place dans l'équipe que de la rater. Tout va dépendre de ce qui va se passer au cours des prochains jours ici. En défensive, là, pour Nicolas Beaudin, Pierre-Olivier Joseph et Jared McIsaac, c'est loin d'être acquis. Dans le cas de Beaudin, on va vouloir de lui là, qu'il soit en mesure de faire fonctionner l'attaque massive. Il a 25 points en 21 matchs depuis le début de la saison avec les Voltigeurs de Drummondville. Dans le cas de Pierre-Olivier Joseph, Jared McIsaac, est-ce que ce sera suffisant pour eux pour se tailler une place dans l'équipe? Il y a beaucoup de talent défensif ici. Il ne faut pas oublier les Evan Bouchard, les Josh Brook notamment, là, qui arrivent ici peut-être avec une longueur d'avance. Un bonhomme comme Ian Mitchell qui joue à l'Université de Denver, on en dit beaucoup de bien aussi. Ce ne sera pas évident. En attaque, je pense que pour Joe Valeno qui arrive ici en pleine confiance, il a une place à gagner pour lui. On le connaît bien au niveau de Hockey Canada. On sait qu'il est capable d'accepter tous les rôles, de devenir un joueur peut-être un petit peu plus défensif si on en a besoin. Il a quand même 54 points en 28 matchs depuis le début de la saison. Troisième meilleur marqueur de la Ligue junior majeure du Québec. Et il se promène également avec une fiche de plus 31, ce qui est un sommet dans la LHJMQ depuis le début de la saison. Alors, est-ce que Joe Valeno sera dans l'équipe? J'aime à penser que oui. Dans le cas de Raphaël Lavoie, ça va peut-être être un peu difficile. Il n'a que 18 ans, pourrait revenir l'an prochain. Connaît pas une saison époustouflante, même si c'est pas mauvais. Ses statistiques ne sont pas mauvaises, loin de là. 31 points en 29 matchs. Je pense que Lavoie, en début de semaine, est peut-être un peu un négligé là, des parieurs pour se tailler une place dans l'équipe. Mais on va suivre ce qui va se passer. S'il marque des buts, s'il a sa présence physique, écoute, c'est un gros bonhomme, Raphaël Lavoie. Alors, on verra là, ce que l'avenir lui réserve cette semaine. Ça va être intéressant. Donc, Tim Hunter est l'entraîneur-chef de cette équipe. Jim Holton, Brent Kizio et Marc-André Dumont sont les adjoints de cette formation. Il y a 23 joueurs de 19 ans qui sont au camp, 10 joueurs de 18 ans, un seul de 17 ans. Alexis Lafrenière. Il faut rappeler également que deux joueurs du Canada qui n'ont pas pour l'instant été prêtés à l'équipe canadienne, Robert Thomas, un vétéran de l'an dernier avec les Blues de Saint-Louis, et Michael Rasmussen avec les Red Wings de Détroit, un gars qui n'était pas dans l'équipe l'an dernier et qui pourrait rater l'expérience cette année s'il demeure avec les Red Wings. Donc, à suivre évidemment lors de nos bulletins Sport 30, lors du 5 à 7, lors de Hockey 360 au cours des prochains jours, on va amplement parler de l'équipe canadienne junior et de ce camp de sélection. Un mot peut-être sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, qui entre dans sa dernière semaine avant la pause de Noël, également dernière semaine avant les fameuses transactions. Il y a déjà beaucoup de rumeurs qui circulent. Le Drakkar de Bécomo aurait déjà conclu un troc qui lui permet de faire l'acquisition de Ayton Crossman et de Keenan McIsaac du Titan d'Acadie Bathurst, deux joueurs qui ont gagné la Coupe Memorial avec le Titan l'an dernier, donc se retrouveraient à Bécomo là, au retour du congé de Noël. Noah Dobson est évidemment la grosse prise là, de cette période de transaction. Ce qu'il faut expliquer dans le cas de Dobson qui s'aligne avec le Titan, c'est que ses droits de négociation appartiennent au Saguenayens Chicoutimi en raison d'une transaction qui a été effectuée l'an dernier entre le Titan et les Saguenayens. Donc, les Sags ont un peu le contrôle de l'endroit où Dobson va se retrouver. Le Titan d'Acadie Bathurst va céder ses droits à une formation qui aspire à gagner cette année. Et cette formation-là devra s'entendre avec les Saguenayens pour envoyer Dobson à Chicoutimi l'an prochain en retour de jeunes joueurs et de choix au repêchage. Donc, c'est un peu compliqué, là, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les Saguenayens possèdent les droits de négociation du défenseur Noah Dobson. Selon certaines rumeurs, Dobson aurait dressé une liste de 5 équipes auxquelles il aimerait être échangé par le Titan. Et évidemment, du côté du Titan, on va tout faire pour accommoder Dobson. On parle évidemment des équipes des Maritimes, le Moncton, Halifax, Charlottetown. On parle également de la possibilité de Drummondville et de Rimouski dans le cas de Dobson. On verra bien. Les Islanders de Charlottetown également, s'ils décident de se ranger du côté des vendeurs, et c'est ce qui semble se profiler, même si les Islanders ont un bon début de saison, une bonne première moitié de saison. Alors, des bonhommes comme Pierre-Olivier Joseph, comme le gardien Matthew Welsh, le défenseur Hunter Drew, pourraient être des prises intéressantes pour les équipes qui aspirent aux grands honneurs. Le gardien Alex Dorio des Sea Dogs de Saint John devrait également changer d'adresse au cours de la période des fêtes. Alors, pour une équipe qui se recherche un gardien là, qui est capable de peut-être gagner des matchs à lui seul, Dorio pourrait être une solution intéressante. La rumeur l'envoie déjà du côté des Moussets de Halifax pour venir solidifier là, un duo avec Alexis Gravel. Beaucoup de rumeurs présentement, mais tout ça va commencer la semaine prochaine. Sur la glace, ben, faut parler à nouveau des Huskies de Rouyn-Noranda qui viennent de gagner leurs 5 derniers matchs et qui ont 15 victoires à leurs 16 derniers matchs. Ils sont premiers au classement général, 27 victoires, 5 défaites depuis le début de la saison. Leurs deux gardiens de but sont 1 et 2 au total au niveau de la moyenne de buts alloués. Zachary Aymon, 1,77. Samuel Harvey, 2,12. Les deux gardiens sont extrêmement solides depuis le début de la saison. Donc, les Huskies qui vont très bien. Et c'est un joueur des Huskies, Peter Abbandonato, un attaquant de 20 ans, qui est également premier marqueur de la Ligue. Il a 59 points en 32 matchs. Faut souligner le travail de Ivan Tchekovitch, le Russe du Drakkar de Bécomo, qui va jouer pour l'équipe russe au cours de la période des fêtes. Il a 29 buts en 32 matchs depuis le début de la saison, ce qui le place au deuxième rang des compteurs de la LHMQ, mais premier au niveau des buts. Les Voltigeurs de Drummondville sont en feu également. 8 fois dans leurs 9 derniers matchs, ils ont marqué au moins 6 buts dans une rencontre, ce qui est tout simplement étourdissant. En fin de semaine, ils ont fait payer le prix à nouveau aux Cataractes de Shawinigan, un gain de 11-1 dimanche contre les Cataractes. Et les Voltigeurs, comme ça, marquent beaucoup de buts là, depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. C'est une grosse machine offensive dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Du hockey junior, on va maintenant parler de la Ligue américaine. Évidemment, on suit de près ce qui se passe avec le Rocket de Laval. Le Rocket qui était sur la route en fin de semaine a divisé les honneurs de ces deux matchs. Une défaite cinglante vendredi à Belleville où le Rocket a probablement joué le pire match de sa saison. Le Rocket qui s'est incliné 7-2 face aux Sénateurs de Belleville. On avait donné le départ au gardien Étienne Marcoux. Ça n'a pas fonctionné. On l'a retiré. On est emmené Michael McNiven. Finalement, on a replacé Marcoux devant le filet en troisième période. On a accordé là, 5 buts dans la seule deuxième période. Ça n'a pas été un grand match pour le Rocket. Toutefois, samedi, le Rocket a rebondi et est allé chercher une victoire de 4-3 en prolongation face aux Marlies à Toronto, un match qui a d'ailleurs été présenté sur les ondes de RDS. Match au cours duquel le défenseur Simon Després, qui disputait son deuxième match, a marqué le but gagnant en prolongation. Beaucoup de changements à la ligne bleue du Rocket depuis le début de la saison. On sait que Carl Halsner a été cédé, Victor Mété a été cédé, on a amené Simon Després sur un contrat d'essai professionnel. Et on apprenait également dimanche, que Xavier Ouellet avait été placé au ballottage et n'a pas été réclamé. Donc, lui aussi se rapporte au Rocket de Laval, ce qui fait qu'on a eu d'autres alternatives là, que de céder 3 défenseurs. Ryan Colkin, Mihal Moravchik et Adam Plant ont été cédés dans la ECHL. Alors, une brigade défensive quand même très solide là, pour Joël Bouchard au cours des prochains matchs. Avec l'ajout de ces bonhommes-là, il y a le défenseur Cale Fleury qui est sur le point d'effectuer un retour au jeu aussi. Alors, lorsqu'il sera en santé, il y aura congestion à la ligne bleue là, du côté du Rocket de Laval. En attaque, on a ramené Félix Martineau qu'on avait cédé à la ECHL la semaine dernière. Donc, il est dans l'entourage de l'équipe. La semaine du Rocket, demain, on reçoit à Laval les Sénateurs de Belleville, match qui sera présenté d'ailleurs sur les ondes de RDS. Je vais m'absenter pour ce match-là, alors je vais souhaiter bonne chance à François-Étienne Corbin là, qui va me remplacer à la description du match et Andréanne Barbeau qui, elle, va remplacer François-Étienne à l'animation de ce match. Donc, c'est le premier de 3 matchs à domicile cette semaine, demain 19h30 à la Place Belle, vendredi et samedi Le Crunch de Syracuse, club école du Lightning de Tampa Bay, sera également de passage. Le Crunch, qui est dirigé par Benoît Groulx, connaît à nouveau de bons moments. 8 victoires à ses 10 derniers matchs. Le Crunch qui bagarre à nouveau pour le sommet de la section nord dans la Ligue américaine. Et par la suite, la semaine prochaine, on aura également les 2 derniers matchs à Laval qui seront également à domicile. Et on sera là à RDS samedi le 22 décembre pour vous présenter à 13h le duel contre les Marlies de Toronto. Donc, c'est ce qui attend le Rocket. Depuis le début de la saison, il n'y a pas beaucoup de choses de positives, peut-être dans le cas du Rocket. Les victoires arrivent difficilement. Mais il y a un joueur qui connaît quand même une excellente saison, bien au-delà de probablement la plupart des attentes qu'on avait placées en lui. Il s'agit de l'attaquant Alex Belzile, qui a récolté 20 points en 26 matchs depuis le début de la saison. Notre collègue Raphaël Doucet s'est entretenu avec lui. On vous a fait préparer un montage des meilleures réponses de Alex Belzile au sujet de sa saison présentement et de ce qui attend le Rocket là, au cours des prochaines semaines.
Oui, c'est sûr. Moi, dans les débuts de saison, je ne me mets pas vraiment d'attente. J'essaie juste de jouer mon style. Puis normalement, quand je fais les bonnes choses, ben il y a les bons résultats qui arrivent. Puis c'est sûr que sur le plan personnel, là, ça va très bien, mais il faut toujours revenir au concept d'équipe. Puis je pense qu'en ce moment, là, on a beaucoup d'adversité, mais on est d'après moi sur le point de virer ça de bord. Je pense qu'au sein de l'équipe, le mood est très bon. Puis on a eu des très bonnes pratiques qu'on n'a pas eu, mettons, dans le début de la saison. Donc je pense je sais pas, j'ai un petit feeling là, que ça va changer dans pas long. Encore une fois, moi, le premier marqueur ou pas premier marqueur, ça me dérange pas beaucoup. Là. Dans ma vie, j'ai toujours eu, mettons junior, j'avais un rôle offensif dans East Coast, souvent j'avais des rôles offensifs. Donc, je passais 0 point parce que je me dis des fois, tu peux jouer ta meilleure game de l'année puis pas en avoir, puis tu peux jouer une game très ordinaire puis en avoir 2. Donc, moi, c'était juste vraiment sur le point de la constance. Je pense que c'est ça qui est le plus important, surtout dans la Ligue américaine. Il y a pas de parties qui sont faciles, au contraire, elles sont toutes vraiment dures. Puis, c'est sûr que c'est flatteur là, en ce moment d'être le premier marqueur de l'équipe, mais encore une fois, comme que je répète, là, moi j'essaie juste d'être constant sur la glace, puis je pense qu'avec les habiletés que j'ai, puis j'ai toujours eu une bonne confiance en moi, que éventuellement si j'allais avoir une vraie chance à la Ligue américaine, j'allais pouvoir me débarquer, donc je pense un petit peu que c'est ça qui arrive en ce moment. Là. Oui, exactement, c'est très bien dit. Dans la Ligue américaine, il y a beaucoup de parties, puis si on regarde au niveau du classement, là, je pense que c'est encore très accessible. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à proximité, qu'on peut rattraper, puis au cours de mes années, de mes expériences, je me suis rendu compte que souvent, c'est mieux de ne pas piquer trop de bonheur dans l'année. Puis dans le fond, de continuer plusieurs des années que j'ai faites les équipes de la Ligue américaine, des séries, jusqu'au mois de janvier, ils étaient proche de la ligne de 500, un petit peu en haut, un petit peu en bas, puis à un moment donné, ils ont une bonne séquence, là, février-mars, puis je pense que c'est les bonnes équipes qui ont remporté la Coupe Stanley, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Washington l'an passé, je pense le mois de mars, il y avait 2 défaites dans le mois, puis tout au long de l'année, on savait pas s'ils allaient faire les séries ou pas. Donc des fois, c'est de l'adversité dans l'année pour avoir plus de réponses, dans le fond, vers la fin de la saison. Oui, exactement. Je pense que si on revient à la base, moi, je me dis, pendant une petite séquence, ça allait plus ou moins bien. Puis Joël, il me rappelait il dit, quand tu as de l'adversité, ben faut que tu fasses ce que tu fais de mieux en tant que joueur de hockey. Puis moi, je pense que je suis un gars qui est très intense puis qui est dur à jouer contre. Dans le fond, fait que moi, j'essayais de plus amener ça. Puis, tu sais, moi, à toutes les chiffres, peu importe qui l'autre bord, là, je regarde pas vraiment les alignements, puis j'essaye juste d'être très intense puis d'être dur à jouer contre. Puis des fois, s'il y a des petites camaraderies sur la glace ou des petites séquences qu'il faut qu'on parle, là, ça me dérange pas beaucoup. Là, je suis assez à l'aise là-dedans. Là. Oui, exactement. Je pense que j'ai toujours aimé rapprocher les gars puis rassembler les gars hors glace. Dans toutes les équipes que j'ai joué un petit peu, j'essayais de organiser des activités hors glace ou des souper, des choses comme ça, parce que moi, je suis un gros believer que dans les bonnes équipes puis dans les équipes gagnantes, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui fait la différence en bout de ligne, puis avoir les bonbons, puis tout le monde pousse dans la même direction, puis tu sais, c'est niaiseux, c'est cliché à dire, mais moi, je pense que c'est quand même un niveau de vérité. Là, dans les équipes que j'ai gagnées dans East Coast, moi, on avait un esprit d'équipe qui était incroyable. Là. Je pense que j'aurais pu comparer avec n'importe quel esprit d'équipe dans la Ligue. C'est sûr qu'on aurait eu une des top 2. Là. Fait que, j'essaie de faire un petit peu ça avec toutes les équipes que je joue. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, là, je m'en viens un petit peu plus vieux. Donc, je suis plus à l'aise avec le monde. C'est sûr qu'en début de carrière, là, je gardais un petit peu de gêne là, parce que je voulais pas être. Je voulais pas pousser trop. Mais là, en ce moment, je pense qu'on est vraiment un bon groupe de gars. Puis, tu sais, il y a des bonnes choses qui vont arriver dans pas long. Là. Oui, exactement. temps. Je pense que McCarron est plutôt simple à jouer avec. C'est un gars nord-sud. Je travaille avec beaucoup sur le long des bandes. Il est bon pour gagner ses bâtons un contre un. Alain, il a une belle touche offensive aussi. Puis il travaille. Je pense qu'on est trois gars qui travaillent vraiment fort. On joue un petit peu de la même façon directement. Là, on est nord-sud. On essaye juste d'aller dans la zone offensive, de passer des chutes dans la zone offensive. Je pense que si on fait ça souvent, puis on est presque pas dans notre zone défensive, bien éventuellement, là, ils vont avoir des chances de marquer. Puis avec des chances de marquer, bien, t'as des rondelles qui vont être filées.
Alors voilà donc pour cet entretien en compagnie de Alex Belzile. On remercie notre collègue Raphaël Doucette là, du 91,9 qui a recueilli ses commentaires samedi dernier à Toronto lors de la visite du Rocket face aux Marlies. Peut-être avant de vous laisser, là, de faire un petit peu effleurer deux sujets qui sont quand même importants. Au niveau d'abord d'un tournoi qui a lieu présentement dans l'ouest du pays, à Bonnyville, en Alberta, c'est le Challenge Junior A qui se déroule là-bas présentement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Challenge Junior A? C'est un tournoi qui regroupe 5 équipes. Il y a 2 équipes canadiennes. On vous en a parlé un petit peu la semaine dernière, Canada Est et Canada Ouest. Ce sont des joueurs qui proviennent des ligues Junior A, dont la Ligue Junior 3A, si on veut, au Québec, qu'on appelle Junior A dans le reste du pays. L'équipe Canada Est est d'ailleurs dirigée par Patrice Bosch des Inuits de Granby. Il y a plusieurs Québécois qui jouent autant pour la formation de l'Est que la formation de l'Ouest également. Et il y a plusieurs joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec également qui évoluent, notamment pour la Russie. On pense à Mikhaïl Abramov des Tigres de Victoriaville, Yaroslav Liachev des Olympiques de Gatineau, Igor Serdiouk également de Victoriaville est là. L'équipe russe qui compte, entre autres, dans ses rangs, sur l'excellent Vassili Podkolzin, qui a été le meilleur marqueur cet été au tournoi Linka Gretzky des moins de 18 ans et qui est fort probablement là, un espoir de première ronde pour la séance de sélection de 2019. Donc, c'est un tournoi qui se poursuit tout au long de la semaine. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que dimanche, RDS, à compter de 18h, va vous présenter la finale de ce tournoi. En direct, donc, de Bonnyville, en Alberta. C'est un tournoi qui existe depuis quelques années maintenant et qui permet à des joueurs qui, du côté canadien, lorgnent plus du côté des universités américaines pour la suite des choses, de se mettre en valeur également. Alors, les joueurs des deux formations Canada-Est, Canada-Ouest ont pour la plupart là, des ententes pour aller jouer dans des collèges américains à partir des prochaines saisons. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus également, ça se poursuit là, jusqu'à, comme je mentionnais, dimanche. Les formations canadiennes jusqu'à présent, Canada Est a subi 2 défaites contre les Russes 5-3 et contre l'Ouest 6-1. Et pour ce qui est de Canada Ouest, ben, une victoire de 2-1 en tir de barrage contre les États-Unis et également une victoire de 6-1 contre l'équipe de l'Est canadien. Donc, dimanche, finale de ce tournoi, comme je le mentionnais, sur les ondes de RDS à compter de 18h. Il y a également, du côté de la Ligue Midget 3A, et ça, c'est important d'en parler, bon, on va encore une fois vous mentionner que les Chevaliers de Lévis poursuivent leur séquence record. Ils ont gagné 2 autres matchs en fin de semaine. 28 matchs depuis le début de la saison, 28 victoires. Mais ce qui se passe dans la Ligue Midget 3A cette semaine, c'est qu'à compter de demain, au Saguenay, au foyer des loisirs notamment, pas au foyer des loisirs, pardon, mais à Ville-de-la-Baie, à l'aréna Jean-Claude Tremblay et aussi au foyer des loisirs, on aura le challenge annuel Midget. Qu'est-ce que c'est que ce challenge annuel Midget? C'est un tournoi qui regroupe les 15 équipes de la Ligue Midget 3A. Et on ajoute 9 autres formations qui viennent ou des Maritimes ou des États-Unis ou des autres niveaux là, du hockey québécois. Il y a une équipe d'étoiles scolaires cette année, il y a une équipe des rangs Midget Espoir, des formations des Maritimes. Donc 24 formations impliquées dans ce tournoi qui va se conclure dimanche. 2 des 3 matchs préliminaires disputés par les équipes de la Ligue Midget 3 contre des rivaux de la Ligue Midget 3 comptent également pour le classement général de la saison. C'est donc dire là, que dans le cas des Chevaliers de Lévis, là, on va tenter de allonger, si on veut, cette séquence record. Bon, le premier match de Lévis a lieu demain contre Cole Harbour. Ce match-là, évidemment, ne compte pas au classement général de la Ligue Midget 3. Mais toujours en ce qui concerne les Chevaliers de Lévis, ils vont jouer également des matchs jeudi et vendredi. Et ces deux matchs-là, en plus de compter pour le challenge comme tel, va aussi évidemment compter pour le classement général du circuit maintenant dirigé par notre collègue Yannick Lévesque. Donc, si vous êtes dans la région du Saguenay, ça vous tente d'aller voir du bon hockey midget, vous allez être servi à souhait. Et tous les recruteurs, c'est le cas de le dire, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec seront sur place pour épier les faits et gestes là, des différents joueurs qui seront là. Alors, lundi prochain, dans notre balado-diffusion, on aura l'occasion de revenir sur ce tournoi qui va s'être conclu dimanche et peut-être d'analyser un peu les performances que nous aurons eues lors de ce Challenge Midget, qui est une étape importante, là, dans la saison pour les équipes de la Ligue de hockey Midget 3. Donc, ça fait un peu le tour. Si on résume donc ce qu'il faut retenir pour cette semaine, évidemment, le camp de sélection d'équipe Canada Junior, vendredi, on devrait connaître, on va connaître l'identité des 22 joueurs qui vont représenter le Canada. Combien il y en aura de la Ligue Junior Majeure du Québec? Est-ce que les deux espoirs du Canadien, Nick Suzuki et Josh Brook, vont faire partie de la formation? J'ai bien l'impression que oui, mais on aura la confirmation de tout ça vendredi, donc à suivre. Début de la période des transactions également, dimanche prochain, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec la pause du temps des fêtes qui va s'amorcer après les matchs de samedi. On surveille la finale du Challenge Junior A qui a lieu en Alberta dimanche. On surveille le Challenge Midget 3 qui a lieu au Saguenay. Bref, beaucoup de choses à surveiller. On sera de retour lundi prochain avec notre édition hebdomadaire qui sera la dernière avant la pause de Noël, évidemment. Alors, je serai de retour. Je tiens à remercier Raphaël Doucette pour son aide concernant notre entrevue de la Ligue américaine avec Alex Belzile cette semaine. Je remercie également Alexis Lafrenière qui s'est prêté au jeu de l'entrevue hier, notre collègue Luc Dansereau toujours à la technique. Et moi, depuis Victoria, je vous salue. On sera de retour à Montréal la semaine prochaine pour une autre édition de notre balado sur la glace. Bonne semaine de hockey. On arrive dans le moment de l'année où c'est probablement le plus intéressant au niveau du hockey junior. Et c'est un moment où nous, à RDS, comme on dit en bon québécois, on tripe fort. Alors, on sera de retour pour vous en parler la semaine prochaine sans faute. Merci tout le monde. Salut.